bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en si grand nombre aujourd'hui pour la conférence d'Hélène Lorrain, que je vais présenter dans quelques instants, mais je vais vous dire quelques mots sur les prochaines conférences tout de suite, tandis que j'ai votre attention. On a accueilli Walter Moser et Marie-André Bergeron, qui nous ont présenté des conférences dans le mois de février. Au mois de mars, on a la conférence de Hélène Lorrain, et en avril, on aura deux conférences, celle de Sarah Anthony sur La Belle au bois dormant, dans le texte et au ballet. Et la conférence de Dominique Bourque sur le démarquage, le marquage et les marges, donc le 22 avril, et celle de Sarah Anthony le 15 avril. Donc, je vous invite à venir, ça va être ici, de 5 à 7. Vous aurez l'information par les canaux traditionnels. Aujourd'hui, ce qui retient notre attention, c'est la conférence d'Hélène Lorrain, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est chercheure postdoctorale à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Elle mène un projet de recherche au sujet des processus de valorisation articulés par les expositions de musées portant sur la musique populaire. Elle est détentrice d'un doctorat en études de la communication de l'Université McGill et sa thèse portait sur les autobiographies du groupe Motley Crue. Elle aime explorer les manières dont les personnes, les choses et les événements prennent ou perdent de la valeur. Et sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « Mémoire de métal, raconter, légitimer et cristalliser la culture heavy metal ». Elle va nous parler du livre « Louder than Hell » qui se trouve juste là et va tenter de le mettre en parallèle avec la notion de mémoire et de légitimation culturelle. Sans plus tarder, je te cède la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Pierre-Luc tout d'abord parce que ça m'a permis de faire un grand wrap-up de ce que je fais depuis plusieurs années. Donc c'est très agréable. Donc oui. Louder than Hell, dont on va parler aujourd'hui. Vous avez remarqué d'ailleurs que mon titre a un peu changé. Raconter, légitimer, cristalliser, non pas raconter, cristalliser et légitimer. Ce sont aussi les trois grandes sections de ma conférence de ce soir. Donc, tout d'abord, je vais présenter un peu le livre. Louder than Hell, je le prends. The Definitive History of Metal, Oral History of Metal, devrais-je dire, a été écrit par John Wiederhorn et Catherine Turman. Ce sont deux journalistes qui ont fait des entrevues ou qui ont cherché des entrevues qui ont été faites par d'autres journalistes dans toute l'archive des revues, des journaux sur la musique ou sur la musique heavy metal en particulier. Les entrevues, donc, c'est avec des musiciens, beaucoup, beaucoup de musiciens, des centaines de musiciens, certains critiques musicaux, certains journalistes, donc des confrères à eux, et ce que j'ai appelé des hanger-ons. En anglais, c'est un terme assez péjoratif, mais je vais enlever cette notion péjorative. Par exemple, Rita Haney, qui est la veuve de Dimebag Darrell, le guitariste maintenant décédé de Pantera, a été interviewée pour ce livre. Tout comme Ricky Rachtman, je ne sais pas comment prononcer son famille, Rachtman, qui était un grand ami de Guns N' Roses et toute cette scène glam metal durant les années 80. Lui aussi fait partie de ça. Donc vraiment une panoplie d'acteurs plus ou moins rapprochés de la scène metal qui ont plus ou moins créé, mais la plupart d'entre eux, qui ont beaucoup créé la culture heavy metal. Si je vous ouvre une page au hasard, vous pouvez voir que c'est comme des courts paragraphes où chacun, finalement, on sait qui parle et là, on lit les histoires. Il y a des... je vais bien leur fermer. Donc, il y a des points de vue contradictoires qui sont développés à partir des récits qui sont abordés. Ça ne dérange pas, donc ça fait beaucoup de vie à ce livre-là qui se lit vraiment très, très bien. Bien entendu, on peut s'en douter, ça retrace la formation, la vie, la mort de groupe. On entend même les voix de musiciens qui sont décédés. Je parlais de Dimebag Darrell tout à l'heure, mais il y a aussi Peter Steele, qui faisait partie de Typo Negative. D'ailleurs, je vais le citer tout à l'heure. Lui aussi qui est décédé. Donc, il y a vraiment une panoplie de musiciens. Le livre est divisé en 13 chapitres, qui sont autant de sous-genres. J'ai écrit énormément de sous-genres parce que 13, ça m'apparaît énorme. Dans ma tête, ça n'existe pas, cette notion-là. On va faire tout à l'heure un panorama du livre, puisque je vais citer 12 citations, 12 passages du livre qui ont été pris dans autant de chapitres. Ça va vous donner une idée en même temps de qu'est-ce qui est abordé. Qu'est-ce qui est vraiment important avec Louder Than Hell, c'est qu'il y a quand même certains patterns narratifs et récursifs qui viennent de chapitre en chapitre et même de portion de chapitre en portion de chapitre. Donc, dans un même chapitre, bien entendu, on va lire des commentaires critiques qui sont toujours positifs. Ces deux journalistes-là adorent le métal. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ils vont avoir des liens aussi qui se font entre les bands ou qui vont expliquer les événements que les métalleux vont, les musiciens vont expliquer. Par le fait même, il y a un survol des groupes piliers du sous-genre abordés dans le chapitre. Il y a énormément, une fois que ça s'est installé, c'est ça, il y a énormément d'anecdotes scabreuses qui sont présentées dans ce livre-là pour faire écho à la culture du métal. Et aussi, en fait, c'est un des moteurs de légitimation de ce livre-là. On va en revenir tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs moments importants qui sont dits, bien entendu, et des morts métaphoriques, des morts réelles qui sont aussi traitées dans le livre. Donc là, on va partir plus à partir de la problématisation vraiment du livre, donc comment il raconte. Le livre s'appelle The Definitive Oral History, donc il y a une question d'histoire orale en jeu. Qu'est-ce que l'histoire orale? Selon R.J. Grail, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, l'histoire orale est « The interviewing of eyewitness participants in the events of the past for the purposes of historical reconstruction ». Donc, dans cette phrase, se tient les principaux éléments de définition sur lesquels je veux insister ce soir. Il parle de « historical reconstruction ». En anglais, « oral history » est relié à l'histoire, le champ académique, là, celle de la Deuxième Guerre mondiale, des rois, des généraux et des hommes importants. Parce que des femmes importantes, ça n'existe pas. l'histoire orale se base donc sur des entrevues avec des témoins absents de l'histoire. C'est d'ailleurs la principale contribution de l'histoire orale au champ de l'histoire et ça a changé aussi les préoccupations de plusieurs historiens et historiennes. C'est-à-dire faire une place à ceux et celles que l'histoire a oubliés, les femmes, les autochtones, les ouvriers, les ouvrières, les personnes de couleur, les réfugiés de guerre, les homosexuels, les tenanciers de dépanneurs, il y en a plein. Finalement, tout ce qui n'est pas homme, blanc, vieux, riche et hétérosexuel. Donc, finalement. En faisant plusieurs entrevues, bien entendu, il y a plusieurs points de vue qui sont abordés. Et loin de faire peur ou de mettre au défi cette fameuse objectivité scientifique, les témoignages contradictoires ajoutent à la richesse de l'analyse. D'ailleurs, l'histoire orale ne cache aucunement sa subjectivité. Non seulement c'est exactement ça qui est recherché par les historiens, mais l'historien même participe à cette construction subjective de l'histoire en mêlant son propre récit de vie et en construisant des relations privilégiées avec ses interviewés. Notons d'ailleurs que cette méthode d'entrevue en profondeur de récit de vie provient de l'anthropologie, autre discipline reconnue pour les liens privilégiés entre chercheurs et cherchés, interviewés. Finalement, comme vous vous en doutez, ce ne sont pas seulement des personnes oubliées de l'histoire que l'histoire orale veut mettre de l'avant, mais aussi des aspects oubliés de l'histoire comme des relations personnelles, le travail à la maison, la vie familiale, etc. Autre point sur lequel je veux insister ce soir, à travers cette reconstruction historique qui se fait à partir de témoignages vécus, le chercheur peut explorer et évaluer la nature du processus de la mémoire historique, comment les personnes produisent du sens de leur passé en relation avec le passé officiel, celui dont on est supposé se souvenir. On est à Ottawa, on est supposé se souvenir de plein d'affaires. Et comment ces mêmes personnes interprètent leur vie selon cette histoire officielle. Donc, il y a toute une dynamique qui se révèle dans les témoignages, dynamique qui va au-delà de la vie racontée et qui témoigne des forces sociales, culturelles et idéologiques à l'œuvre dans l'expérience de la mémoire. Je vais revenir d'ailleurs sur les questions de la mémoire en troisième partie de ma conférence. Comme j'ai déjà mentionné, bon, c'est en français, mais il y a quand même une nuance à faire entre histoire orale et récits oraux. Moi, je trouve ça un peu bizarre, en fait, qu'ils appellent ça de oral history. J'ai l'impression que c'est une espèce de gimmick marketing, un peu, parce que c'est quand même assez éloigné du champ académique officiel. Il y a manifestement une volonté de faire histoire avec Louder Than Hell, c'est The Definitive History of Metal. Mais ce livre se base presque exclusivement sur des entrevues, sur des récits de vie, donc sur des autobiographies. D'ailleurs, aussi dans la bibliographie à la fin, on voit que non seulement ils ont pris des entrevues, mais ils ont aussi pris des extraits d'autobiographies, carrément, de métalleux. Bon, alors, je vais continuer avec autobiographie, que je ne juge pas avoir besoin de le dire, mais je vais le dire pareil. Auto, soi-même, bio, vie, graphie, écrire, donc écrire soi-même sa propre vie. On pourrait déborder un peu de l'écriture seulement pour penser à un témoignage autobiographique, un récit de vie, une entrevue, donc un moment plus ou moins tendu où une personne raconte sa vie ou est enregistrée. C'est le cas dans Louder Than Hell. Donc, un discours sur soi-même, un discours sur les événements qui ont ponctué nos vies, qui ont constitué la personne qu'on est devenue et sur les significations qu'on donne à ces événements-là. Or, dans le cas de Louder Than Hell, ce sont deux auteurs qui décident des événements significatifs. John Wiederhorn et Catherine Turman sont donc les gardiens de la sélection des événements, des extraits choisis et de l'ordre dans lequel tout ça est présenté. Leur rôle est un peu étrange, est un peu binaire, dans le sens où ils sont surtout des auteurs fantômes qui ont dirigé de loin ce récit, cet ouvrage, mais leur nom est indiqué sur la couverture du livre. Donc leur boulot a surtout consisté à un travail colossal d'édition et un tout petit peu de travail d'écriture au sens propre pour introduire les chapitres, les musiciens, faire des liens entre les groupes, etc. Ainsi, il y a un travail d'interprétation qui est déjà fait pour le lecteur. En fait, il y a plusieurs couches d'interprétation dans une autobiographie. Il y a le musicien qui interprète les événements de sa vie, et on peut dire qu'il y a au moins plusieurs interprétations à un événement donné, dépendant de son importance relative par rapport à la vie entière d'un individu. Exemple concret, quand j'avais 11 ans, mon hamster Tycoon est mort. Et quand j'avais 11 ans, c'était un événement très important, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins important, for some reason. Donc oui, il y a plusieurs significations, plusieurs couches de signification dans une autobiographie. Le musicien qui interprète les événements de sa vie, les auteurs qui ont sélectionné des passages particuliers et qui nécessairement ajoutent une couche d'interprétation par leur sélection. Et en étant bien inclusif, une troisième interprétation, celle des lecteurs, différente de personne en personne et même de lecture en lecture. Toutes ces interprétations se font selon des conventions narratives du monde journalistique et littéraire, conventions qui bougent, qui font et qui se défont constamment. John Wiederhorn et Catherine Turman ont aussi eu le pouvoir de choisir la morale de Louder Than Hell, les messages qu'on doit en retirer. Moi, je sais que ça peut faire un peu simpliste de stipuler que les autobiographies ont une morale comme les contes pour enfants, mais il y a certainement une visée idéologique qui peut être comprise, d'ailleurs, différemment selon notre parcours, selon ce qu'on privilégie comme lecteur, évidemment. D'ailleurs, certains chercheurs se consacrant à la forme biographique, comme Willem Dilthey et Samuel Johnson, argumentent que lire une biographie peut montrer la voie à suivre afin que tous et chacun puissions mieux vivre en nous inspirant des grands hommes aux vies vertueuses. Je ne crois pas que Dilthey et Johnson avaient des biographies de métalleux dans leur corpus. Cela dit, et nous allons y revenir, je peux d'ores et déjà vous dire que Wiederhorn et Turman mentionnent à plusieurs reprises comment la consommation de drogue et les comportements imprudents peuvent être destructeurs pour les musiciens et pour leur groupe. Donc, il y a clairement des jugements moraux à l'œuvre dans Louder Than Hell, même s'il y a apparence d'apologie de la vie rock'n'roll. J'ai déjà mentionné que les musiciens imbibent les événements de leur vie de diverses significations, pas seulement les musiciens, en fait, tous et chacun d'entre nous. Par le fait même, bien entendu, ils font preuve de réflexivité. C'est peut-être le concept central ici. Par là, je veux dire qu'ils sont self-conscious, sont conscients d'eux-mêmes, ils monitorent ce qu'ils disent, conscients qu'ils racontent leur vie, qu'ils se posent comme personnages à quelque part. Ils sont conscients qu'ils démontrent et construisent leur identité, qu'ils la performent. Il ne faut pas oublier que même si ce livre s'appuie sur des entrevues pour des revues ou des journaux, ça a l'air anodin, hein, les musiciens savent qu'ils sont enregistrés et que tout ce qu'ils disent peut se retrouver écrit et retenu contre eux, comme moi en ce moment d'ailleurs, selon l'expression consacrée. Autrement dit, il ne faut pas être naïf, les musiciens savent qu'en racontant leur histoire, ils effectuent en quelque sorte un genre de branding, une manière d'exposer leur identité au monde, une manière aussi d'articuler comment ils souhaitent que le public se souvienne d'eux. Et dans ce cas-ci, c'est pas parce que le livre a été compilé par deux journalistes que cet effet identitaire est plus faible, parce que la base du livre, ben, c'est des entrevues. Et c'est pour ça aussi que la question de la vérité est si importante. Déjà, quand on lit une autobiographie ou une biographie, ou même juste une chanson de musicien, souvent on se prend une entrevue, on se prend pour un détective, on se demande, il y a où le mensonge, le trucage, l'invention là, pour sauver les apparences et se donner le beau rôle. Moi, quand j'entends du Paul McCartney, je pense tout le temps à ça. Est-ce qu'une autobiographie peut être 100% véridique? Considérant que le soi est toujours en construction, si on est puriste, il serait impossible qu'une autobiographie soit absolument véridique puisqu'on est tout le temps en changement. Cela dit, selon cette vision, personne n'est jamais véridique jamais, donc on se retrouve à la case départ. On peut alors se retourner vers le pacte autobiographique de Philippe Lejeune. Le pacte autobiographique, c'est le contrat de lecture entre le lecteur et l'auteur lorsque le mot « autobiographie » affuble un livre et que le texte est déchiffré dans ce sens-là. C'est la dynamique entre le lecteur, le texte et l'auteur, auteur qui se retrouve aussi être le narrateur et le protagoniste principal. Donc, que les faits soient vérifiables importe peu, tant que l'autobiographe fasse référence à sa perception des choses. Donc, il y a un effet de vérité à l'œuvre ici. J'ajouterais que le genre autobiographique, l'institution par laquelle le lecteur décode un texte dit autobiographique, assure la vérité. De plus, une autobiographie nouveau genre comme Louder Than Hell, bien que composite et patchée partout, participe à la conjoncture métal, elle s'insère comme une nouvelle pièce d'un casse-tête qui ne finit jamais à la grande culture métal. Et on sait aussi à quel point l'authenticité et la sincérité sont des valeurs importantes au métal et à toutes les musiques populaires issues de l'idéologie rock, j'ajouterais. Donc, ça devient assez stérile essayer de savoir qui a raison, qui a tort, quand, à quel moment, mais ça devient important et intéressant de voir comment les affirmations du livre façonnent la culture métal, ce que ça fait. Et d'ailleurs, c'est ça que je vais faire dans la deuxième et troisième partie ce soir. Enfin, la vérité suppose un certain niveau d'intimité. L'intimité autobiographique est une intimité publique. En fait, il y a toujours une négociation qui se fait entre les manières de faire déjà là et ce qui serait radicalement neuf. Et c'est dans cet espace d'intervention que se situe cette intimité publique racontée par les stars dans leur autobiographie. Car oui, même si c'est des musiciens qui sont peut-être assez obscurs pour le lecteur lambda, c'était... Je suis très contente d'avoir plugué Lambda. Dans Louder Than Hell, cette histoire orale met néanmoins en scène une galerie de personnages connus du public, comme le guitariste Slash, par exemple. Et aussi, il est à noter que le public visé par cette publication, ce sont surtout des fans de métal, qui connaissent déjà même très bien les musiciens du bouquin. Donc, on peut parler d'autres célébrités. Et c'est peut-être là aussi que l'aspect oral history me gêne un peu, parce que c'est des personnes connues. La célébrité est vue comme un phénomène socialement et culturellement cheap. J'ai été accro au site web de potins de célébrités, voilà, quelques années, et je devais presque m'excuser d'en lire autant, et j'en parle encore aujourd'hui comme si c'était un épisode de consommation de drogue dure, donc il y a beaucoup de honte à s'intéresser à la célébrité. D'ailleurs, les autobiographies de célébrités ne sont pas considérées comme de la littérature, donc je suis une impostrice ce soir. Et même dans le champ des autobiographical studies, ce ne sont pas des objets dignes d'intérêt, contrairement aux mémoires de survivants de l'Holocauste, genre. Pourtant, la célébrité est porteuse de significations potentiellement très fécondes pour l'analyse sociale. Je viens d'expliquer plutôt comment l'autobiographie peut modifier notre rapport à l'intimité publique. La célébrité peut aussi changer ce rapport. Une définition de la célébrité selon Graham Turner, qui est un chercheur en médias spécialisé en célébrité, est que lorsque l'intérêt que les médias portent à une personne dépasse son rôle public pour s'attarder en majorité à sa vie privée, on a là une star. C'est une manière de voir ça, je ne suis pas totalement d'accord, mais le point important à retenir est que la célébrité brouille et redéfinit les limites entre sphère publique et sphère privée. Par le fait même, les significations accordées à la célébrité sont organisées, orientées et négociées socialement, et ce, beaucoup via les médias, bien entendu. Cette formation sociale que devient la célébrité contribue donc à l'articulation d'un sens de la communauté et même d'un sens d'identité. Donc oui, un sens d'identité et de communauté. Je cite David Marshall, lui aussi chercheur en médias. « The audience continues to interpret the meaning of the celebrity in a grand narrative on the dimensions of individuality and identity in contemporary culture where comparisons between the self and the celebrity are continuously made and cultural norms are supported, altered or dismantled. » Une comparaison avec soi, des normes culturelles aussi qui sont créées à travers la célébrité, donc c'est important. Et selon le même Marshall, depuis le 19e siècle, donc depuis l'émergence du capitalisme et de la notion d'auditoire de masse, la célébrité est devenue le mode de représentation privilégié pour mettre de l'avant des valeurs très précises, des valeurs comme la ténacité, la persévérance, l'humour, l'intelligence, justement comme les livres gros liés quand on était petit. J'ajouterais que la célébrité aussi est aussi devenue le mode privilégié pour représenter la valeur chez un individu. Une star est « worthy », même si elle est, en anglais, il n'y a pas vraiment de meilleur mot, même si elle est « worthy » par sa naissance dans une famille riche ou par son compte Twitter, comme Kim Kardashian, parfois. Retour à l'autobiographie, après ce petit détour, l'autobiographie de star fait partie de ce qu'on appelle l'image de star. L'image de star a d'abord été conceptualisée par le théoricien Richard Dyer et qui a été... Ça a été repris par plusieurs chercheurs sur la célébrité depuis. Et même, on dirait que c'est passé dans le langage courant. J'ai l'impression qu'une émission à Musimax là, qui s'appelle « Image de star ». Mais bon, pour revenir, l'image de star, c'est la totalité des signes circulant à propos d'une star et qui crée l'identité de cette star, que cette identité soit réelle ou non. Donc, les rôles dans le cas d'un acteur, d'une actrice, les chansons, les tweets, les propos en entrevue, les photos officielles, les photos de paparazzi, les costumes, les accents, les langues, dans le cas de Miley Cyrus, qui montre tout le temps sa langue. Donc, tout ça. Les autobiographies, évidemment, constituent un de ces signes qui façonnent l'image de star. Et ce qui est vraiment bien avec une autobiographie, c'est que ça permet des explications au jeu. Donc, les autobiographies font partie des signes qui sont le plus contrôlés par les stars. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la réflexivité des autobiographies, des autobiographes, les stars articulent grandement leur propre conscience de soi dans leurs autobiographies. Une autobiographie, après tout, reste l'endroit par excellence pour expliquer des comportements parfois apparemment erratiques ou plus généralement inexplicables à nos yeux de non-stars. Donc, il y a potentiellement une nouvelle articulation de la manière dont la star veut être perçue, ou encore, c'est une articulation qui se fait dans la continuité d'une image de marque, d'une image de star qui a déjà été établie. Et aparté, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais cette image de marque de star portée par le narratif de vie est souvent semblable d'une autobiographie de star à l'autre. Enfance difficile, désir de réussite, échec, réussite, accès à la célébrité, on frappe un mur, la drogue, on retour en force, souvent avec un message de service public qui est accolé à la vie de la célébrité de type mes déboires et le fait que je les ai surmontés peut aider une seule personne, ça a revalu la peine, des trucs comme ça. Donc, ça arrive très souvent, ça. Retour à l'Earth and Hell. Donc, pour terminer, clore cette section, raconter. L'Earth and Hell, à quelque part, c'est avec tout l'ensemble des témoignages oraux qui sont présentés, c'est l'autobiographie d'une culture. Donc, ça va bien au-delà d'une personne. Ça parle de la culture heavy metal. Et à quelque part, oui, et ça, l'Earth and Hell réarticule à travers les mots sélectionnés, choisis par les deux journalistes, des musiciens, la culture heavy metal. Donc, ça devient vraiment une loupe vraiment intéressante pour voir comment la culture heavy metal est légitimée et cristallisée, comment ça se met en place. J'ai trouvé qu'il y avait trois mécanismes de légitimation vraiment principaux dans la Earth and Hell. L'héritage, soit la création d'un arbre généalogique du métal à même le livre, à même les citations. Des récits de difficultés, beaucoup, pour prouver qu'il y a mérite, que ce n'est pas seulement un passe-temps. Et qu'est-ce que j'ai appelé tout à l'heure, les anecdotes scabreuses, des récits crus. J'ai hésité un peu avant d'appeler ça comme ça. J'aurais pu appeler ça récit choquant, mais je ne voulais pas induire de biais idéologique. Mais oups, je viens de le faire. Donc, mais vous allez comprendre tout à l'heure qu'est-ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour chacun des mécanismes? Il va y avoir quatre blocs de citations que je vais vous lire parce que j'aime ça, lire des citations. Et à chaque fois, je vais vous dire qui est le personnage en question et de quel chapitre ça vient. Donc, on commence par Tom Morello, que j'espère vous connaissez. C'est le guitariste de Rage Against the Machine, qui est un groupe culte des années 90 de notre génération, beaucoup. Ça vient du chapitre All for the Nookie, qui est sur le nu metal, qui, si ça avait été moi l'auteur, n'aurait pas fait partie du livre. Mais bon, ça, c'est une question. Donc, Tom Morello. I have a complete love for Led Zeppelin, Kiss and Black Sabbath, as well as funk and hip-hop, and I love to express myself on guitar. Tony Iommi, ça c'est le guitariste de Black Sabbath, okay. Tony Iommi was one of the biggest influences on me as a riff writer. Early on, as a fledgling guitar player, I was trying to learn some Black Sabbath songs, and I asked this guy to show them to me, and he almost didn't want to lower himself. He was like, it's so easy, why would you want to learn them? I said, dude, because they rule. That, to me, is absolutely as much a part of this band as any political agenda. But the fact that we've been able to extend the message contained in the music into the realm of political activism has been extremely rewarding. It's really the barometer by which I measure our success rather than units moved or tickets sold. Désolé. Donc, ce qui est intéressant dans cette citation-là, oui, il y a une question de génération d'arbres généalogiques, Led Zeppelin, Kiss, Black Sabbath, Tony Iommi, beaucoup de Black Sabbath. Mais il y a aussi une autre légitimation qui prend racine, qui n'est pas très exploitée dans le reste du livre, c'est-à-dire que le succès, c'est pas vraiment en fait quantitatif. Pour moi, le succès, c'est l'agenda politique. C'est assez rare qu'on entend un métalleux dire ça. D'habitude, les métalleux sont plus accroupis sur leur peine, on dirait, des fois. Scott Ian, qui est le guitariste de Anthrax, et aussi qui a fait un petit side project qui s'appelle Stormtroopers of Death, qui est Anthrax, c'est du thrash metal, et Stormtroopers of Death, c'est du crossover thrash, ça c'est important de le dire. Et ça, ces deux citations-là se retrouvent dans le chapitre Caught in a Mosh sur le thrash metal. Sont à une dizaine de pages d'intervalle, donc j'ai décidé de les mettre ensemble. Scott Ian écrit la préface de ce livre. Il se mentionne lui-même comme « the ultimate metal fan ». Donc, il est très enthousiaste par rapport à son amour du métal. Il semble aussi tout connaître. Et là, il va nous parler de l'influence de Motorhead et de Venom sur la musique de Anthrax et sur son propre amour du métal. Donc, Motorhead were so important to the development of thrash metal because they were so fucking fast and heavy. When Anthrax started out, we were listening to Motorhead nonstop. We'd be writing a song and going, no, we should play that one faster. That's how fast Motorhead plays. We have to be faster than them. À la page 204, for me and all my friends, 1981's Welcome to Hell was our first exposure to Venom. And it was a huge eye-opener. It was one of those holy shit records, like, Jesus Christ, listen to this. These guys are fucking insane. There were songs like Sons of Satan and the title track. It was so, so evil. This was a new kind of insanity. Et ensuite, Peter Steele, que je vous ai mentionné plus tôt, qui était le chanteur et le bassiste de Typo Negative, qui est un groupe de doom metal, et aussi le chanteur et bassiste de Carnivore, et c'est dans le cadre de Carnivore qu'il nous parle, qui est ça, c'est un groupe de crossover thrash. Ça, c'est dans le chapitre Age of Quarrel. Sur le crossover hardcore, donc écoutons-le. Carnivore's second album, 1987's Retaliation, was extremely influenced by my discovery of hardcore music at CBGB in 85 and 86, which instantaneously I was attracted to. What I strived to do was create an album that was half Black Sabbath and half Cro-Mags, Agnostic Front, Murphy's Law, Sheer Terror, Black Flag, stuff like that. I loved the heaviness, the slowness, the dirge of Sabbath. But at the same time, going to CBGB on Sundays for the matinee, there was so much unbelievable energy in there, it didn't even matter if bands were not in tune. Donc, on encore une fois, une référence à Black Sabbath, ok, ça devient, ok, on connaît. Mais cette fois-ci, on parle Cro-Mags, Agnostic Front, Murphy's Law, qui sont des groupes qui sont mentionnés, qui sont interviewés dans le cadre du chapitre Age of Crawl. Donc, il y a vraiment un arbre généalogique qui se crée sous nos yeux, carrément. Et finalement, encore un bloc de citations. Adam Dutkiewicz, qui est le batteur et guitariste pour Aftershock, un groupe... Non, parce qu'il est batteur et guitariste, je sais pas comment tu fais. Et qui a été ensuite guitariste pour Killswitch Engage, qui c'est deux groupes de metalcore. Et aussi, on va entendre Sinister Gates, qui l'écrit vraiment comme ça, son nom, qui est le guitariste de Avenged Sevenfold, qui est le groupe de metalcore qui est peut-être le plus connu aujourd'hui. Ça joue même à Show FM. Ça fait partie du chapitre When Darkness Falls, qui parle justement de metalcore. Donc, on va s'apercevoir, en fait, que les deux parlent d'influences extrêmement similaires. Donc, I listened to a lot of DC and New York hardcore, but I was also way into early Metallica and Slayer. So for Aftershock, I took all that stuff and squished it together. Sinister Gates, we liked hardcore, but we loved the classics. Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica, Pantera. We're also into progressive stuff like Mr. Bungle and Dream Theater. That's where we get our crazy musical transitions. Donc non seulement ils ont des références similaires, mais ils ont les mêmes manières de parler de leurs références similaires. C'est quand même assez étrange. D'ailleurs, si vous êtes curieux, ça a été très facile de trouver ces citations-là. Il fallait juste que j'ouvre une page à un chapitre, puis je les trouvais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est les trois mécanismes de légitimation qui sont vraiment les plus présents. Maintenant, on va du côté des difficultés. Donc, raconter comment ça a été difficile au début, bien entendu, ça met en place toute une logistique de mérite, en fait. Ce n'est pas seulement le métal, comme ils le font, ce n'est pas seulement un hobby de pacotille, jouer dans une pizzeria, comme on va entendre Rick Ross dire. Ça a valu la peine pour le succès plus tard. Donc oui, Rick Ross, qui est l'ex-guitariste du groupe Death, qui fait partie aujourd'hui de Massacre et de M Inc. Ça fait partie du chapitre Hammer Smashed Face sur le death metal. Moi, je trouve qu'ils ont les titres de chapitres les plus fous. Donc, c'est Rick Ross est vraiment un des pionniers du mouvement death metal. Et là, il va parler justement de comment ça se faisait avec son groupe Death. The first gig we did was at a Knights of Columbus Hall, Les Chevaliers de Colombe, opening for a band called Tempter. Everybody was like, what the fuck is this? We were a three-piece, we had no bass player, we tuned really low to C, and Cam was growling. Cam, c'est Cam Lee, c'est le chanteur de Death à l'époque. At the time in Florida, promoters were only booking hair metal cover bands for clubs, so there was no way we were going to get a gig at a real venue. We played this pizza place in Orlando. We played at a restaurant, at a salad bar, anything we could get. Donc, le suivant, c'est Adam Deuce, qui est le bassiste pour Machine Head. Et aussi, la prochaine, c'est Rob Flynn. En fait, ça fait partie de la même page, vous remarquez, c'est la page 620-621. Donc, Rob Flynn aussi fait partie de Machine Head. Et ça, c'est dans le chapitre New American Gospel, que j'ai pas très compris c'était quoi, en fait, le sous-genre qui était mis de l'avant dans ce chapitre-là. C'est plus comme les développements récents du métal aux États-Unis. Donc là, il nous parle du groupe Machine Head, de leur début. I was a pissed off 19-year-old kid starving to death, deciding whether I should go down to the store and buy a sandwich or buy a pack of cigarettes, and choosing the cigarettes because cigarettes are going to last all day and I won't be hungry. There wasn't a chance in hell the four guys that did Burn My Eyes could burn that hot for that long. Burn My Eyes, c'est le premier album de Machine Head. Donc, je pense que ça, c'est un niveau de pauvreté assez cru. Décider d'acheter des cigarettes parce qu'on va pas avoir faim et ça va durer toute la journée, c'est quand même quelque chose. Et maintenant, Rob Flynn, qui en fait la citation qui suit juste ensuite. At first, no one liked us. One reviewer wrote, Burn My Eyes. Pretty good if you've never heard Prong. Prong, c'est un autre groupe, bien entendu. I was like, dude, fuck you. We opened for Napalm Death and Obituary, and at 85% of those dates, the crowd hated us so much. Dudes were trying to fight us on stage. They were shouting, go back to Oakland, pussies, and spitting on us. At the end of the Denver show, we had to take cymbal stands off the drum riser and use them like shields to defend ourselves. I thought Chicago was going to be sick because Violence did pretty well there. Un des groupes, d'anciens groupes de Rob Flynn. We played there, and when we stumped Davidian, there were just two people sarcastically clapping. I said, you suck, fuck you, Chicago! Si on pense qu'il y a un genre, un sous-genre métal qui a été absolument, ridiculement facile, c'était le glam métal. Mais juste à se mettre du Sprinet dans les cheveux, mettre des bottes avec des talons hauts, marcher sur Sunset Strip et on avait un contrat, apparemment. Janie Lane, le chanteur de Warrant, nous dit que non, lui, il a souffert avant de devenir un grand chanteur glam metal. Donc, Janie Lane aussi, qui est décédée il y a quelques années aussi, donc un autre qui nous parle de sa tombe. We were living 9 guys in a 2-bedroom apartment. I spent a month shrink-wrapping porno videos in a basement in Canoga Park. I had a paper route delivering the LA Times in stage clothes at 3 in the morning. I was talking 7-Elevens. I did everything I could to survive. But we were literally starving. We couldn't pay the rent. Steven Sweet and I were like, maybe we should head back to Florida and regroup. We can play in a cover band for a while there and save some money. 2 days later, as we're packing, there's a note on the door and it says, hi, we're the guys in Warrant. Our band broke up in San Diego last night and we need a singer and a drummer. Can you write music? I played them Down Boys, Heaven, and Dirty Rotten Filthy Stinking Rich, and they were like, wow, he can write. So we formed the band and took over LA. Mais avant ça, ça a été difficile. Phil Anselmo, qui est le chanteur de Pantera, qui est très connu pour son rôle de chanteur dans Pantera, et qui a aussi été chanteur dans plusieurs autres bands. Ça, c'est tiré du chapitre Far Beyond Driven, qui est sur le renouveau du thrash metal. Et là, il va nous faire un petit jab au glam metal qu'on vient de voir, justement. Before I joined Pantera, every band in a bar had to look like Motley fucking Crue. I would come home from school and sing Unleashed in the East from Judas Priest front to back. Then I ended up in the bar scene, and out comes the spandex. Here I was, a metal and hardcore fan, and I'm standing up there in New Orleans band Razor White, looking prettier than a goddamn girl. I'm going, fuck, I can do this, man? I was 16, I had quit school and left home. For the entire year, I was doing between 4 and 6 gigs a week, 3 to 5 sets a night. That's how Pantera heard about me. Donc, à travers les récits de difficultés, il y a souvent aussi la valeur du travail, du travail acharné qui est mis à l'avant, comme on le voit ce soir, ici. Mais donc, ça va dans le récit cru, donc bouchez vos oreilles, non, au contraire, gardez-les ouvertes. Qui dit récit cru dit, bien entendu, Ozzy Osbourne, parce que c'est comme le premier à avoir fait ça. Donc, on va écouter Geezer Butler, qui est le bassiste original de Black Sabbath. Ça, c'est dans le chapitre Masters of Reality, sur les premiers groupes officiellement métal. The first, là, il parle de Ozzy. The first really crazy thing I remember Ozzy doing was defecating on top of a Jaguar. We did this gig in Birmingham at a university, and the promoter stiffed us. So Ozzy went out and went to the toilet on top of his brand new Jaguar. That was a taste of things to come. Et écoutons Ozzy lui-même nous dire c'était quoi ce goût des choses à venir. Ah, je vais vous dire le chapitre avant. Ça, c'est le chapitre, dis-je, British Steel sur le New Wave of British Heavy Metal. OK, donc, I was at the CBS Records building for a meeting in 1981. I was very drunk and very stoned. And my wife told me to go in the room and throw these two fucking doves in the air as a peace offering. I was very out of control, and I threw one up and bit the other one's head off and threw it on the table before the day was out. It was on the press lines all over the world, and I was the asshole of the fucking year. My wife went fucking nuts when she got home. I was banned from my own record company's building. Ça, faut le faire. Ça, c'est comme un moment important, d'ailleurs, dans la culture métal, la fois où Ozzy décapité, merci, une colombe vivante. Yeah.
Avec ses dents.
Arrachée, ouais, c'est ça. Faut le faire. Et... bon, parlons aussi de choses catalogiques. Marilyn Manson, c'est aussi une figure très importante des années 90, dans ce chapitre « High-tech hate sur le métal industriel ». Et la raison pour laquelle j'ai choisi une citation de Marilyn Manson, c'est que dans le film « Bowling for Columbine », j'imagine que vous en souvenez, Marilyn Manson est interviewé dans le cadre de ce film-là. Michael Moore va le voir, tout ça, parce que Marilyn Manson a été blâmé, était vraiment le bouc émissaire de la tragédie qui s'est de la fusillade en 99. Et Marilyn Manson apparaît tout en vêtements de scène, dans son personnage, mais tout à fait articulé, très posé, très intelligent. Et là, le monde entier découvrait un homme qui savait parler, premièrement, mais qui savait parler vraiment très bien. Je me rappelle, je pense que mon oncle me l'a dit, comme « Wow, Marilyn Manson, il est pas si cave que ça. » Je suis comme « Eh non! » Et là, ce livre vient tout défaire. Écoutons-le. I met Alyssa at a showcase we did for Maverick Records. I immediately realized she was deaf because of the way her voice sounded. A year later, we were at South Beach Studios in Miami. I went outside to get something to eat and I ran into Alyssa. I said, why don't you come by the studio? It was ironic because just that day, ex-keyboardist Pogo, aka Madonna Wayne Gacy, was saying that one of his fantasies was to have sex with a deaf girl. Ah, voilà. Oop. Pas tout de suite. Okay, voilà. Pogo shouted, I'm going to come in your useless ear canal. And it seemed to echo through the room as maybe one of the darkest things we had ever heard. Et aussi en ce moment. Alyssa went to take a shower because she was covered in meat we had thrown at her while she was naked and assorted body fluids from the act of filth. So since she was going to the shower anyways, I asked, can we urinate on you? She said, just not on my boots, and don't get it in my eyes, it burns. Moi, je me demande comment on peut dans une douche avec des bottes. Twiggy and I put one leg on the stall and one leg on the toilet and hosed her down with urine. Ah, Marilyn. Et finalement, la dernière citation, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Ça vient du chapitre In the Nightside Eclipse, qui est chapitre sur le black metal norvégien. Et juste, je pense, dire black metal norvégien, ça devrait résonner des cloches. Alors, il y avait un groupe d'amis, apparemment, qui avaient tous des noms en anglais, parce que leur nom suédois est norvégien, disent, est imprononçable. Non, c'est une blague. Et là, ils ont commencé à se tuer et à se tuer eux-mêmes et à se tuer aussi entre eux. C'était vraiment très agréable. Et aussi à mettre des vieilles églises centenaires, millénaires, je pense, en feu, rien de moins. Donc, là, il y a un gars qui s'appelle Dead. En fait, son vrai nom, c'est Jan Axel Blomberg, donc je peux le prononcer, qui décide de se tuer. C'est un gars qui a tout le temps été très déprimé. En fait, c'est pas très surprenant qu'il se suicide. Et là, Hellhammer, de son vrai nom... En fait, non, c'est Hellhammer, son vrai nom, est Jan Axel Blomberg, désolé. Dead, je sais pas trop. Donc, Hellhammer, ça nous explique qu'est-ce que Euronymous va faire avec le cerveau de Dead. Et Euronymous a été d'ailleurs lui aussi tué, genre de 26 coups de couteau, par un gars qui s'appelle Varg Vikernes, qui est aujourd'hui en liberté en France. Il a fait son temps en prison. Donc, allons-y. After Dead killed himself, the police removed the corpse, but all the blood and this shit was lying around the floor and the walls of this old house they were living in. I was there with Euronymous, and he took a piece of Dead's brain and put it in some Mexican stew. It was just a small piece that had been lying on the floor. When Euronymous was eating Dead's brain, that was pretty strange. I didn't eat it because I really enjoy good food, and I wouldn't destroy my senses eating this kind of shit. I don't think he enjoyed eating it either, but he just wanted to taste human flesh, so he did. I think it was cool, but I would never have done something like that. Mais je pensais que c'était cool. Donc, je pense que là, en termes de récit cru ou choquant, je pense qu'on a atteint un bon niveau. Donc, on va aller à la troisième partie, la cristallisation. J'ai déjà un peu parlé du processus que je vais mettre de l'avant, finalement, qu'est-ce que je fais, finalement? Dans les autobiographies, il y a énormément de réflexivité. Les auteurs, les autobiographes ou ceux qui sont interviewés pensent beaucoup à la manière de... la construction, en fait, de leur identité. Par le fait même, il y a vraiment un enjeu d'authenticité, de vérité qui est en jeu. Qui est mis de l'avant, on se pose des questions. Mais il y a un effet de vérité qui se passe à travers la lecture d'une autobiographie. Et par le fait même, il y a une espèce de refaçonnage culturel ou de façonnage culturel. J'aime beaucoup le mot anglais « shaping », comme c'était comme la plastine. Il y a cette notion-là, j'aime beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est comme une pièce de puzzle dans le casse-tête infini de la culture métal. Et par le fait même, un peu, il y a une cristallisation. Cristallisation qui, même, c'est pas peut-être le meilleur mot, qui est tout le temps en redéfinition, qui est tout le temps en train de se refaire, qui est tout le temps, qui n'est jamais fini, finalement. Donc, ce livre-là fonctionne, il a été, édité en 2013, publié en 2013, devrais-je dire, mais peut-être que d'ici une couple d'années, qu'est-ce qui va être dit là-dedans va être remplacé par un autre type de cristallisation, d'autres types aussi de mécanismes de légitimation. Ce que je propose, c'est que ce livre crée une mémoire mythique. Et là, j'ai mis une petite photo drôle, mais ça a plus ou moins rapport, mais vous pouvez réparer. Donc, mémoire mythique, on va diviser un peu ce concept-là parce que c'est quand même assez porteur. On va commencer par mythe parce que c'est le plus simple. Donc, l'étude des mythes, c'est extrêmement vaste, au point où c'en est même compliqué. Il y a les mythes en littérature, en psychologie, en anthropologie, en sociologie, en théologie. Ils réfèrent tous un peu à quelque chose de différent chaque fois, mais ils ont tous en commun d'être orientés vers l'étude des imaginaires. Donc, les mythes façonnent et orientent les grandes idées qui circulent à propos de quelque chose. Ma définition des mythes se promène quelque part entre littérature et anthropologie. De l'anthropologie, je retiens que les mythes s'incarnent dans des récits plus grands que nature. Ça impressionne, ça bouleverse la pensée, il y a quelque chose qui choque, qui brusque. Du côté littéraire, Roland Barthes a longuement discuté des mythes dans son livre « Mythologie ». Selon lui, le mythe transforme la réalité historique en quelque chose de naturel, en quelque chose qui va de soi, d'évident, qu'on ne questionne plus. Et ce sont les personnes au pouvoir, les bourgeois, dans les mots de Barthes, qui forcent leurs interprétations du monde en mythe. Retour à l'anthropologie. Les mythes sont des récits qui permettent de comprendre la vie en société, de donner un cadre pour la compréhension et l'action sociale, un genre de charte, faut plus dire ce mot-là, mais bon, de guide de vie qui offre une direction morale. Encore une fois, comme avec Barthes, l'enjeu du pouvoir revient à l'ordre du jour, donc il y a quelque chose là. Par exemple, les mythes sont souvent réquisitionnés pour revendiquer ou légitimer des actions qui se veulent en continuité avec ou encore en brisure avec le passé. Les mythes permettent donc d'agir dans le présent, de l'orienter, mais en stabilisant le passé, plutôt une certaine vision du passé. Exemple concret, il y a certains penseurs de la droite économique québécoise qui appellent au mythe du coureur des bois pour appeler les Québécois à se défaire de la lourdeur du gouvernement. Du gouvernement, donc à la base, les Québécois seraient des coureurs des bois, seraient des personnes absolument libres et sans entraves. Mais le gouvernement nous met des entraves. Non. Donc, on devrait s'en libérer, s'inspirer du mythe du coureur des bois. Voilà. Voici un exemple. J'en dirai pas plus. Et il y a aussi mémoire mythique. Mémoire et mythe partagent beaucoup, mais quand je dis mémoire mythique, justement, c'est quand même pas un pléonasme, donc il y a des différences. La mémoire sociale, collective, culturelle, il y a confusion généralisée parmi ces termes. Donc la mémoire qui dépasse nos simples souvenirs d'individus, c'est les préoccupations, les débats, les commémorations, les représentations d'événements, de phénomènes du passé, pour tenter une première définition. À parté, en musique, il y a beaucoup de mémoire qui est en train de se créer. J'imagine que vous avez regardé ou entendu parler des derniers Grammys. Metallica, ils ont joué la chanson One. C'est une chanson qui a été enregistrée en 88, pour laquelle ils ont reçu un Grammy en 90, et on est en 2014. Ça me fait capoter. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais revenir lors de la conclusion. Continuons avec la mémoire. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un phénomène collectif. Des discours et des représentations sociales sont à la base de la mémoire. Et donc, quand on parle de phénomène collectif, on pense aussi à la formation d'un groupe. La mémoire est orientée dans le but de transmettre des connaissances qui permettent à un groupe de se constituer et de se perpétuer, de continuer à vivre. Comme les mythes, et c'est selon moi le principal rapprochement qu'on peut faire entre les deux concepts, la mémoire légitime, une version du passé. C'est pas n'importe quelle connaissance qui est transmise comme mémoire, c'est pas n'importe quoi. Elle est choisie, et si elle est choisie, c'est qu'elle sert à légitimer, à former, à confirmer quelque chose, un groupe, une version donnée du passé, etc. Et enfin, la mémoire, même si elle apparaît sédimentée des événements, les ancrer dans quelque chose de lourd, des événements, des personnes, des choses aussi, mais la mémoire est toujours en constitution. Ça, j'y reviens, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens. Et justement, un livre comme Louder Than Hell participe à la constitution de la mémoire dans la culture heavy metal. Et pour parler de la dynamique de la mémoire, de la création de la mémoire mythique dans Louder Than Hell, je vais reprendre chacun des mécanismes de légitimation que je vous ai présentés et vous dire ce que ça fait. Ce que je pense que ça fait. Donc, héritage. Au-delà de la volonté de créer un arbre généalogique du métal, ce qui est assez commun dans toutes les cultures musicales, pas seulement au métal, qui sert à légitimer d'ailleurs les cultures métal, il y a une volonté de la part des musiciens et des journalistes, auteurs, de solidifier cet arbre généalogique. Si les musiciens eux-mêmes nomment les groupes qui ont été importants à leur propre formation, leur composition, leur manière de jouer leurs instruments, ça ajoute à la simple équation qui est souvent faite par les journalistes, équation qui serait du type, comme on l'a vu tout à l'heure, Anthrax et Motorhead plus vite. Ça ajoute. Les musiciens qui affirment ces influences ajoutent une plus-value, autrement dit. Par le fait même, l'histoire de la musique métal est transformée en quelque chose de naturel, qui va de soi, en un mythe, au sens cartésien. Et pour les fans de métal qui lisent Louder Than Hell, ça peut orienter leurs écoutes futures et sédimenter l'importance des bands qui sont interviewées dans le livre, que leur influence perdure ainsi. Le livre participe à ce que j'appelle le cercle de l'Association High Grade du métal. Plus on en mange, plus elles sont fraîches, plus elles sont fraîches, plus on en mange. Plus on parle de certains bands métal, plus ils sont influents. Plus certains bands métal sont influents, plus on en parle. Encore une fois, dans le cas de difficulté, il faut aller au-delà de la légitimation pour comprendre comment une mémoire mythique est créée à travers les récits de difficultés racontés par les musiciens et sélectionnés par les auteurs. Pour ça, je vais me diriger vers un consensus tenace de la part des fans de métal. Les fans de métal croient généralement que tout le monde, et les journalistes rock en particulier, détestent leur musique. Cette perception fait en sorte que les fans de métal développent une solidarité peu commune entre eux. Le sens d'appartenance au métal est en effet assez légendaire. Aller dans un concert de métal, c'est fou. Effet de base, quand tu sens ta gang rejetée, tu veux juste plus aimer ta gang. Donc, les récits de difficultés, en plus de prouver aux yeux du monde que les musiciens en ont bavé pour se rendre où ils en sont, servent aussi à créer de l'appartenance et de la solidarité entre fans de métal. Il y a constitution d'un groupe à travers les discours de difficultés, discours dont il faut se souvenir, discours de mémoire, puisqu'ils sont inclus dans ce livre, « The Definitive Oral History of Metal ». Et finalement, récits crus. Là, c'est peut-être ici que l'aspect mythique est le plus important. Les récits crus présentés dans Louder Than Hell sont plus grands que nature. Ils frappent l'imaginaire beaucoup. Et après des années de tentatives, et je dirais même peut-être de réussite pour remettre le pendule à l'heure, de montrer ses garçons sous un jour positif, comme je le disais tout à l'heure avec Marilyn Manson. Ce livre vient tout défaire. Ça vient nourrir l'imaginaire du métal, fait de grands gars menaçants, tatoués des chaînes du sang de la violence. C'est d'ailleurs peut-être avec ce courant qu'on va voir l'influence de Louder Than Hell dans le futur. Il y a plusieurs preuves, si je peux dire, de la survivance et de la valeur du choc dans l'histoire du rock, surtout dans une stratégie de mémoire mythique s'inscrivant dans une cristallisation. Par exemple, Led Zeppelin, on se souvient d'eux pour leur chanson, mais aussi, et surtout, je dirais, pour leur débauche totale. Même chose pour Motley Crue, c'est ça que j'ai étudié dans ma thèse. D'ailleurs, pour faire un parallèle et un détour, j'imagine que vous avez remarqué que les questions d'argent sont souvent discutées dans le monde du rock. Exemple récent, Lady Gaga vient de faire un concert à South by Southwest qui était commandité par les Chips Doritos lors de son entrevue keynote que lui à South by Southwest, je pense que c'était le lendemain. Elle a dit que la commandite, comme ça, est le seul bon moyen de s'affranchir du contrôle que peut avoir une compagnie de disques. J'ai des doutes là-dessus. Je ne suis pas la seule à avoir des doutes là-dessus. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits autour de ça. Un musicien qui vend beaucoup et qui vend rapidement est souvent considéré cheap, indigne, une gimmick commerciale. Pensons à Justin Bieber, Miley Cyrus, justement. D'un autre côté, un succès économique à long terme est un fort indicateur de la valeur d'un musicien. En fin de semaine, j'ai lu un article sur le musicien italien Zucchero, qui est très connu. En fait, seulement, il commençait l'article en disant « Il a vendu 50 millions d'albums durant sa carrière. » Je suis comme « Ah, ben, il doit être connu, il doit être bon. » Donc, pour introduire un musicien, cette stratégie-là de mentionner le nombre d'albums vendus ou de succès de tournée, tout ça, est très souvent utilisé. En fait, le succès économique à long terme transcende les questions artistiques et assure la qualité d'un musicien. 50 millions d'albums, 50 millions de personnes qui ont acheté un album, ne peuvent pas avoir tort, à quelque part. Donc, est-ce que les récits crus peuvent avoir le même effet que le facteur économique à long terme, c'est-à-dire soit une cristallisation qui se déroule sur des décennies? À partir du moment où la musique est là pour rester, que ce type de récit peut-il devenir un agent de légitimation? Je crois que oui. On va voir si l'avenir me donne raison. Et je termine avec cette affiche de Heavy Montreal qui va avoir lieu cet été. Quand je parlais qu'il y a beaucoup de mémoire qui est créée en ce moment avec la musique populaire, mais avec le métal aussi, bien entendu, on pourrait se demander en quelle année on est quand on regarde cette affiche. On peut en fait se demander comment la consommation culturelle contemporaine... Pourquoi passe autant par des vieux bands? En tout cas, c'est une question que je me pose pratiquement tous les jours. C'est un processus qui me fascine. Et on dirait aussi que c'est de plus en plus difficile de trouver des bons nouveaux bands. Il y a énormément de fragmentation avec le web, tout ça. Donc, je termine sur cette remarque. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Hélène.
J'ai particulièrement apprécié les récits crus pour différentes raisons, mais bon, on ne s'étendra pas là-dessus. Si vous voulez poser des questions, le champ est libre. Je vous demanderai peut-être de parler assez fort pour qu'on vous entende au micro, comme le bruit de fond est parfois assourdissant.
C'est un commentaire.
Oui, c'est
dans votre présentation, vous parliez des hanger-ons.
Oui.
Est-ce que dans Labyrinth, on donne une place au récit des groupies? Est-ce qu'il y a quand même une grande personnalité du livre, du moins de ceux qui suivent le métal, les groupies sur des biographies, ce qu'ils ont vécu avec le groupe, peu importe, mais ça offre une autre vision donc, du groupe. Est-ce que les journalistes ont donné une grande importance au récit des groupies?
Non. Je pense qu'il y a une fille qui a été interviewée dans tout le livre. Là. C'est vraiment un livre très masculin. Je pense que la chanteuse de Kitty, un groupe métal des années 2000.
Mais encore, c'est une chanteuse, donc elle
oui.
a une certaine légitimité
oui.
là-dedans.
Mais il y a beaucoup de récits de groupies de la part, c'est ça comme Alyssa qu'on a vu tout à l'heure, de la part des musiciens eux-mêmes, mais non, il n'y a pas de groupies interviewées.
Ils n'ont pas pensé à aller parler à Alyssa?
Je ne crois pas. Mais elle est muette. Non, elle est sourde. Elle est sourde. Qu'est-ce qu'elle aurait entendu? Non, c'est une blague, non. C'est une blague qu'elle a entendu. Ben ça, ça révèle aussi, il y a tout un biais masculiniste dans la culture métal qui est souvent, qui est souvent minimisé, mais okay. On n'est pas dupes. Est-ce que vous avez aimé ça?
Oui.
Moi aussi, je vais poser des questions.
En fait, je vais passer une autre question, ben parce que j'avais aussi l'invention du discours social. Est-ce que vous faites un lien avec les théories du Bourdieu?
Oui, ben je n'ai pas parlé là, mais c'est ma principale inspiration théorique.
Donc, Bourdieu. Dans le fond, on pourrait dire que le métal est un peu un sous-champ de production culturelle.
Oui, absolument, oui.
Qui expliquerait aussi l'idée de cohésion des gens entre eux et l'idée de produire pour son propre groupe.
Oui, de distinction sociale à travers des récits crus, justement, puis... première légitimation qui était de se poser comme garçon intelligent, virtuose, posé, pourrait faire partie de ça, d'une stratégie de distinction, parce que, mais là, c'est comme l'imaginaire qui rattrape le métal. Moi, je trouve ça très intéressant, ce moment-là.
Puis, je me demande aussi, dans votre travail, est-ce que vous pensez à l'imaginaire social ou l'imaginaire collectif?
Non, je ne fais pas cette... Même que le mot imaginaire, c'est pas un mot que je touche très souvent, parce que ça, c'est plus relié à la littérature, puis... Je me sens moins à l'aise avec ça.
C'est intéressant, oui? Parce que c'est toujours de constater ce qui reste d'un siècle, ce qui reste d'une époque. Mm-hmm. L'imaginaire social fait rapport, fait référence au moment où le produit culturel est inséré en société, okay. Et ce qui arrive à faire bouger dans l'imaginaire social du moment.
Okay.
L'imaginaire collectif, dans le fond, est ce qui reste de ce qui était passé au tamis depuis le siècle.
Okay.
C'est intéressant, un exemple que je peux donner dans le métal, par exemple. De nos jours, c'est pas tout le monde qui connaît Kiss, mais tout le monde connaît les quatre gars maquillés en noir et blanc, des manches cuir, des nick-nick.
Oui, oui, oui.
Donc ça, c'est comme une différence entre l'imaginaire social et l'imaginaire collectif. Puis, c'est parce que...
J'espère. Est-ce que vous avez un autre... Je vais prendre en note. Est-ce que vous avez un ou deux auteurs à me recommander?
L'imaginaire collectif, proposer à travailler sur l'imaginaire collectif, comme Nindus Castoriadis.
Ok, ouais. Je connais les noms, moi.
Il y a aussi
je l'ai fait dans la bouche.
Excusez-moi?
La Société du spectacle, je n'en fais pas d'autant.
Ah, c'est Guy Debord.
Oui, Debord.
Castoriadis. Popovic, le premier, vous avez...
Oui, Popovic. Pierre Popovic.
Imaginaire social. Mais merci beaucoup. Ben je pourrais réviser, je l'ai lu quand même cet été, mais je me suis posé la question cette semaine. Oui, je me suis posé la question cet été même, mais pas cet été, cette semaine. Comme, hey, si me pose la question des femmes, il me semble qu'il n'y en a pas, j'ai aucun souvenir qu'il y en ait à part. Kili qui parle en fait justement de son expérience de male groupies. Elle dit, il n'y en a pas vraiment. Elle dit, la chanteuse dit, chanteuse et guitariste dit... que les gars de son crew ont plus de groupies que elle, puis c'est pourtant elle la front, tu sais, comme... c'est supposé être elle qui a le sexe à la fin. Ça me surprend toujours à quel point il y a comme un aveuglement là, par rapport à ça.
Mais à ce moment-là, c'est parce que je suis pas très au courant des efforts.
OK.
Je suis pas vivant de poste. Je
me demande, des photos de voyage en même temps.
Ah!
Terre-Neuve.
Je me demande, est-ce que ce serait parce que les discours rock féminines sont plus inscrits dans le courant punk, par exemple, je pense à Blondie, mm-hmm, des mm-hmm. groupes comme ça. Est-ce que c'est...
La question de féminité puis de musique populaire est... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout un courant féminin punk, même qui date, c'est ça, du début du punk avec The Slits. Les Riot Girls ont été extrêmement importantes au début des années 90. Mais souvent, Ben, je sais pas si j'ai comme... Moi, je pense que je suis... À force de l'étudier, je suis devenue complètement biaisée. mais j'ai vraiment l'impression que les musiciennes... En tout cas, il y a un courant de validation qui se fait autour du pop. Qu'est-ce qu'on dit, maintenant qu'on divise comme le pop, les Ronettes, donc l'épouse, je m'en rappelle plus, c'est quoi son nom, les Ronettes? La première épouse de Phil Spector, qui faisait Ronnie Spector, ça c'est bon, ok. Ronnie Spector, qui est la Amy Winehouse originale, par exemple. Amy Winehouse il y a quelques années qui reprend l'esthétique des années 60. J'ai l'impression qu'il y a tout un courant de validation qui se fait autour des girls group, des girl groups, puis même les Spice Girls. Moi, quand ça avait lieu, quand c'était inséré dans l'imaginaire social, c'était complètement cheap, mais plus tard que justement l'imaginaire collectif, j'ai bien appris la leçon, mais ça devient soudainement valide, était naïve et belle et enthousiaste, oui, c'est ça, et passionnée, tout ça. Le punk, déjà, à sa création, c'était déjà comme « Oh, regardez, c'est bizarre, des filles qui foncent dans le tas. » Alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus qui se passe avec les filles qui ont fait du pop. Ça étudie. Parce que moi, je suis une grande fan de Madonna, là, donc mon tissu, tu sais ça, mon jupon sort, je suis complètement biaisée. Ben, c'est pour ça que je peux pas comme cacher qui je suis.
Est-ce que vous, mettons, dans votre tâche ou dans vos travaux en général, vous étudiez les stratégies formelles qui relèvent plus de la rhétorique ou de la mise en forme de cette parole-là?
Il y a de ça, je fais un peu des deux, je fais un peu social, mais je fais aussi, oui, le... Là, je l'ai pas parlé, mais dans ma thèse sur Motley Crue, il y avait comme des questions comme « Ceci arrive dans le premier chapitre, donc c'est important parce que... » Mais ça, je l'ai moins fait ici, mais dans ma thèse, je l'ai plus fait. Comme a dit mon directeur à l'époque, « Le diable est dans les détails, donc c'est ce genre de détails. » Non, ce genre de détails-là, ouais.
Comme observation, les amateurs, peut-être même éventuellement une critique, soient complètement évacués de la façon dont les gens racontent leur expérience, racontent leur succès. Ça, je trouve ça une piste absolument intéressante. La question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est distinctif, caractéristique, temporalité, une autobiographie de métal par rapport à un autre type d'autobiographie? Quelque chose qui, en termes de temporalité invoquée par les personnes, qui soit assez distinctif.
Par les journaux, qu'est-ce qui... Un détail que j'ai pas dit quand j'ai nommé tous les chapitres durant les citations, c'est que chaque chapitre aussi, il y a des années qui sont encadrées par des années dans le titre même, comme 1974 à 86, des trucs comme ça. Sinon, non, faut que le fan sache qui parle, puis ça peut prendre quelle année. C'est dans le cas peut-être de musiciens qui sont décédés, là, c'est écrit comme entrevue de 1991 interview. On sait un peu plus quand ils parlent parce qu'ils meurent. Mais sinon, les entrevues ont toutes été faites récemment. C'est ce qu'on en comprend, là. Récemment, c'est tout du présentisme. Là. C'est avec nos yeux d'aujourd'hui comment on voit le passé. Est-ce que ça répond à ta question? Ok.
Fait que dans le fond, l'effet de cohorte est comme créé par le paratexte, par l'entreprise éditoriale.
Oui, absolument, oui, oui, oui. Bon, bon roman. Bon roman.
Je sais que c'est pas ce que tu t'étudies dans ces livres-là, mais je peux pas m'empêcher de penser à la littérature. Évidemment que ce genre de corpus-là serait boudé par bien des gens dans l'institution, mais il me semble qu'il y a quand même une esthétique là-dedans qui est assez particulière, qui est assez forte, qu'on pourrait le relier à d'autres œuvres qui ne sont pas des autobiographies de métal. Mais qui ferait en sorte que...
Ah, c'est moi!
Super belle photo! Mais qui ferait en sorte de construire un corpus qui serait plus esthétique que thématique, par exemple. Puis que ces œuvres-là, ben là, celle-là, c'est particulier parce que c'est comme une autobiographie sociale, comme tu disais. Mais les autobiographies dont on parle, le corpus premier pourrait s'insérer dans d'autres types d'études qui seraient plus textuelles, probablement.
Oui, oui. Ta question sur à quoi ça me fait penser, donc je pense que c'est la réponse que je vais prendre, c'est depuis Walk This Way de Aerosmith et The Dirt de Motley Crue, qui était en respectivement 99-2001, puis la publication de ces deux livres-là, il y a vraiment des centaines d'autobiographies de métalleux, là, de musiciens métal qui sont sortis. Il y en a qui sortent à chaque saison littéraire. Donc, j'ai très hâte à la l'autobiographie de Axl Rose. Je pense que ça, c'est le seul dans Guns N' Roses, c'est vrai qu'il n'est pas publié. C'est pas des chanteurs rock ordinaires, c'est du métal, c'est ça, là. Il y a tout l'imaginaire qui vient avec. Et j'ai remarqué justement dans les autobiographies de Motley Crue, puis je n'ai lu plusieurs autres pour d'autres projets, qu'il y a vraiment ça, un accent mis sur les récits sensationnalistes, les récits crus, comme je les ai aussi appelés, donc qui appellent au sens. On s'est interpellé en tant que lecteur à cause de la physicalité de la lecture. Donc, ça serait peut-être dans ce sens-là qu'il y a un courant esthétique.
Oui, parce que le récit cru, ça demeure thématique, mais c'est raconté d'une manière particulière qui fait en sorte qu'on pourrait débattre de la littérarité peut-être d'un texte en particulier, mais il me semble qu'il y a quand même un aspect textuel qui est important parce que c'est pas un documentaire, c'est pas une série télé, c'est pas un film, c'est un livre. C'est une entreprise d'écriture quand même.
Oui, oui.
Je sais pas si toi,
Ils ont été souvent, pas juste pour Louder Than Hell, pour plusieurs autobiographies. En fait, c'est un enregistrement. Ils ont été tous écrits avec des co-auteurs qui, en fait, c'est des personnes qui les interviewent puis qui retranscrivent puis qui s'assurent de la cohérence puis de la concordance. Puis est-ce que les années sont correctes? Parce que, à la quantité de drogue qu'ils ont pris ces gens-là, je suis pas sûre que la mémoire est la meilleure de la faculté. En effet, c'est un livre, j'avais jamais pensé à ça. Potin, d'ailleurs, The Dirt, la première autobiographie de Motley Crue, va être officiellement transformée en film en 2015. J'ai très hâte. Nicky Six va faire une comédie musicale de... Nicky Six, c'est le bassiste de Motley Crue. Il va faire une comédie musicale d'un de ses propres autobiographies à lui. Donc, il y a aussi comme une remédiation aussi qui va avoir lieu, selon moi, durant les prochaines années, parce que j'imagine que The Dirt, j'espère, que The Dirt va pas être la seule autobiographie de musicien métal qui va être transposée dans un autre média. Ouais, c'est une bonne question.
Ben, c'était pas vraiment une question.
Ouais.
C'est une observation.
Je voulais savoir si... Premièrement, je pouvais te tutoyer parce que j'ai un peu l'impression de travail. Deuxièmement, je voulais savoir, tu t'as dit que tu travailles beaucoup avec Bourdieu, notamment le phénomène de distinction. Puis je voulais savoir si tu avais aussi comme mis dans ton angle de voir théorique les phénomènes de constitution de sous-culture un peu à la décapitage.
Un petit peu, pas beaucoup.
Un peu en étude, dans le versant un peu cette étude culturelle.
Ouais, c'est ça.
Puis, sous-question, est-ce que tu as pu voir. Observer un peu la manière dont la culture, dominante est-ce que tu étudies un peu les phénomènes de réception de cette sous-culture-là, la manière dont cette sous-culture-là a été en quelque sorte rejetée ou enfin reléguée
Si on parle de sous-culture métal au complet,
ouais.
Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait comme un consensus tenace de la part des métalleux qui se sentent vraiment rejetés,
ouais,
persécutés, en fait, c'était ma première thèse que j'ai laissée tomber en cours de route pour plein de raisons. J'ai tiré un article de ça, donc tu peux aller lire un article. En fait, qu'est-ce que j'ai étudié, c'est la réception. Pour voir si c'était vrai que le métal avait tout le temps été considéré comme pas hot, là, t'sais, comme un objet culturel absolument...
C'est une réaction de la culture dominante.
Oui, c'est ça, mais en même temps, qu'est-ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que il y a plusieurs journalistes rock qui ont aimé le métal et qui l'aiment encore. Juste que les bases de l'appréciation étaient différentes dans les années 70 qu'aujourd'hui. Il y a eu... À l'origine, je vais en parler dans cette conférence-ci, mais j'avais vraiment pas le temps. Donc, par exemple, le métal durant les années 70 était apprécié de la part de Lester Banks, là, qui est pas comme... Lester Banks, c'est le critique par excellence, il est comme une figure Il était chez Cream. Il est décédé en 83, je me souviens bien, donc c'est comme une espèce de figure de martyr des critiques. Il a été interprété par Philip Seymour Hoffman dans Almost Famous. C'est peut-être son... Aujourd'hui, on le connaît plus comme ça. Mais c'est un critique vraiment fondateur. Donc, il adorait Black Sabbath, Lester Banks. Il y a... Le gars qui a donné le nom heavy metal, c'est un critique rock, là. C'est Metal Mike Saunders. Son surnom, c'était Metal. Donc, il y a quelque chose là. Mais il aimait cette musique-là parce que c'est une musique qui était inepte. C'est une musique faite par des... La manière dont il disait ça, c'était comme... j'ai pas besoin de penser, mais j'aime ça. Aujourd'hui, l'aptitude, c'est ça, comme le fait que le métal soit un art, ça c'est complètement accepté. Donc il y a plus cette... à savoir si c'est un art, ça, cet ineptie-là en jeu, c'est complètement apte, ça se dit pas, là. C'est une musique qui est apte, c'est une musique qui est valide en elle-même. Donc là, on va jouer de comment dire en anglais, le artistry là, du métal. Donc c'est des bases qui sont différentes. Ça, c'était un des mécanismes de légitimation, mais il y en avait d'autres. L'authenticité aussi est jugée différemment d'aujourd'hui à avant, tout ça. Mais là, il y a tout le temps eu des journalistes rock, même des années 70, des années 80, qui aimaient le métal. Donc oui, j'ai fait une recherche, c'était plus des critiques, des critiques ou des journalistes par rapport à certains albums, c'était moins par rapport à la sous-culture en général. Mais les métalleux ont comme les meilleurs des deux mondes, là. Ils se croient persécutés, mais ils le sont pas. Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de passion, mais en même temps, c'est pas vrai qu'ils sont... Il y a une question de bouc émissaire quand il arrive un drame, mais souvent, comme ça prend deux secondes, puis c'est des hypothèses qui sont rejetées. L'absurdité du bouc émissaire est démontrée très rapidement, souvent dans les médias aussi. Fait qu'ils ont comme le meilleur des deux mondes.
Je sais pas si vous avez pas répondu à ma question, mais je me demandais, les femmes, les métalleuses, est-ce que on en parle plus via les films, par exemple, ou si c'est un médium qui permet d'en parler plus, ou je sais pas, je pense au film qui a été fait sur les Runaways il y a pas si longtemps.
Ah oui, ils sont comme punk metal, eux autres, c'est ça, comme entre les deux.
Ouais. Ouais.
Oui.
Est-ce qu'on parle plus de ces femmes-là via un autre médium
je sais pas. Mais quand on en parle, c'est tout le temps auréolé d'exception. Et quand c'est auréolé d'exception, ça veut dire que... Ça veut dire que la domination est ailleurs. Donc, regardez ces filles comme elles sont spéciales et tout ça. Donc, puis les... Je me rappelle, en 2009, il y a eu un documentaire sur le métal, un documentaire qui est sorti en salle, qui était... je me rappelle plus, mais c'était Sam Dunn qui a fait d'autres documentaires sur le métal depuis... Journey Through the Metal Heads, non, c'est pas ça, là, mais des UNN, tu veux rechercher ça. Puis il y avait une section gender, qui, seulement comme il était tout le temps dans le...
A Headbanger's Journey.
Donc j'avais le mot journey, c'est pas pire. Donc il y avait, dans la section gender, il minimisait totalement le sexisme et la misogynie du métal en disant « Maintenant, les femmes sont acceptées, yeah! » Mais avant, c'était peut-être un peu plus problématique, mais maintenant, ça va bien. Il y a même une femme qui fait du growl, tu sais, cette fameuse technique de death metal là, que je suis incapable de faire. Donc, c'est la preuve que les femmes...
Tu peux pas essayer?
Non. C'est comme faut faire appel à ce qu'on appelle les fausses cordes vocales. Donc, c'est possible, faut juste l'apprendre. Et je l'ai pas appris. Donc, le Cookie Monster Vocals aussi, qui sont appelés. Donc, s'il y a une femme qui est capable de faire ça, c'est la preuve, bien entendu, que les femmes sont acceptées, que tout va bien, que tout ça. Je résiste. Non, pour mon mémoire de maîtrise, j'ai étudié les concours d'air guitar. Puis ça aussi, il y avait vraiment comme une auréole d'exception quand il y avait une fille qui venait jouer sur scène. Pis des fois, c'est tellement exceptionnel, puis c'est tellement étrange qu'il y a une fille qu'elle gagnait. Juste parce que c'est tellement comme c'est la seule, donc on va lui donner une bonne note. Donc il y avait comme une discrimination. Donc c'est sûr qu'ils sont acceptés, ils ont des bonnes notes. Donc c'est comme cette espèce de double. Il doit y avoir un mot pour ce processus-là. Là, c'est pas une double contrainte. Là.
Double
contrainte? Ouais, peut-être double standard.
Pour ceux et celles qui s'intéressent aux femmes
dans le
métal, il y a un livre qui est tout juste de sortir qui s'appelle Not Just Tits in a Corset.
Merci!
Ça vient tout juste de sortir.
Ok, j'étais pas au courant.
Ça fait à peu près deux semaines, puis c'est assez intéressant. On parle notamment des filles de Girls School, Peter Ford, Joanne Jen, Doro Pesh,
okay.
De Warlock et.
Et c'est quoi le nom? Lita Ford, j'espère. Merci beaucoup.
Mais juste le titre, ça me fait penser à la question que je te posais tout à l'heure sur l'esthétique. Là, il y a vraiment quelque chose de...
Si on parle de la culture métal, a une esthétique extrêmement forte.
C'est ça, mais cette esthétique-là se transforme en esthétique littéraire peut-être à travers la médiation, je sais pas, mais Not Just It in a Corset, c'est quand même assez puissant. Okay. Mais peut-être que le livre est vraiment super mal écrit, je sais pas, ou en tout cas. Peut-être.
Dernière question. Pourquoi pas? Il sort une demi, il n'y a pas encore ça.
Oui, oui, il reste encore du temps.
Je veux juste savoir, c'est une question de néophyte, mais complètement. On parle d'esthétique. Tu sais, tu as parlé dans ta conférence de beaucoup de sous-genres,
oui.
Trash metal, black metal. Est-ce que c'est des nuances ou il y a vraiment une grosse différence du point de vue musical?
Je pense que ça dépend des sous-genres entre eux. Mettons le doom metal, ça c'est très reconnaissant parce que le rythme est très lent. Le thrash, ça va être plus rapide. Ça c'est déjà, ça c'est peut-être deux extrêmes.
Okay.
Mais entre moi, crossover puis hardcore, j'ai aucune idée. Sérieux. Je sais pas si c'est deux manières de nommer la même chose parce qu'ils sont parlés dans le même chapitre. Il y a, je suis comme une mini-néophyte moi aussi, donc.
Après une thèse de doctorat.
Ouais, non, mais oui. J'aime beaucoup le glam metal. Le glam metal, je reconnais ça. Là. Je mets glam metal sur Songza, là, j'ai
ben moi, j'ai une dernière question, si tu as de l'énergie.
Oui, oui.
C'est sur le texte, en fait. J'aimerais ça revenir à ce livre-là, parce que j'ai même pas vu à l'intérieur, peut-être que j'aurais pu juste feuilleter puis avoir ma réponse, mais ça se présente comme étant une histoire définitive. Mais est-ce qu'il y a du texte décrit par les journalistes?
Oui, il y a du texte, okay. Particulièrement en introduction, puis pour faire les liens.
OK.
Entre
parce que c'est pas juste du fragment, là. C'est pas juste un collage de différents.
Non, c'est ça. Il y a vraiment un texte qui est assez minime, là. Il est pas très présent. Mais c'est, ouais, ça agit plus en tant que liaison.
Ok, donc eux, ils ont pas un discours historique finalement.
Dans quel sens que tu veux dire par
discours historique? Un discours de cristallisation, c'est pas eux qui le font. Ce discours-là, de légitimation.
Ben ils font par leur sélection.
Ouais.
Puis là, ben ils ont quand même un discours comme Pantera. Ils reviennent souvent sur Pantera. Juste comme l'insistance qu'ils font sur ce groupe-là, ça paraît qu'il y a comme une place spéciale.
Puis qu'est-ce qu'il y a de définitif dans ce livre-là?
Le titre.
OK. Ça confirme ce que je me posais comme hypothèse.
Il y a eu un Definitive Oral History du punk il y a quelques années. Ça, je pense qu'il y a une espèce de...
La collection
de
pour les nuls.
Oui. Une volonté de faire des histoires orales définitives de cultures musicales qui ont plus marginales. En tout cas, depuis une couple d'années, là, j'ai l'impression que... Le prochain, ça va peut-être être le rap. Oui. Là, ça va être « Yo, shit, niggas! » Ça va être cool.
Ça va être le titre. Non, j'aime ça. Si tu veux peut-être nous faire un peu de growl. D'autres questions? Non, mais... Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir fait ce travail-là. Je trouve que, en tout cas, je sais pas, je veux pas parler pour les autres, mais moi, ça m'impressionne beaucoup. Un mémoire de maîtrise sur les concours de Air Guitar, je trouve ça magnifique. C'est le genre de recherche qu'on veut mettre de l'avant aussi avec le Salon Double. Des choses peut-être plus marginales, moins standards, mais qui sont néanmoins super intéressantes puis très... J'imagine très rigoureuse aussi. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Puis, éventuellement, ça sera disponible sur Internet pour qu'on puisse se réécouter et réentendre. Mais sinon, je vais laisser...
Et mon mémoire, que dis-je? Si vous êtes intéressé, ma thèse de doctorat est aussi disponible sur le web. À l'espace McGill. Quelque part dans le site web de McGill. Si vous arrivez...
J'essaierai de le trouver puis de le mettre en ligne sur le site.
Non, mais je peux t'envoyer le lien.
OK, parfait. Merci beaucoup. Merci.
Merci.